Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous retrouver cette fois-ci dans nos studios de Radio Présence à Lourdes pour notre entretien hebdomadaire. On va aborder encore une fois plusieurs sujets. Vous arrivez tout juste de la session qui a réuni les évêques et les vicaires généraux de la province. Peut-être qu'on peut, pour commencer, faire un petit retour sur cette session. De quoi avez-vous parlé? Quels étaient les sujets importants abordés ensemble?
Comme on a eu l'occasion de se le dire déjà sur cette antenne, en effet, régulièrement, les évêques et vicaires généraux de toute la province de Toulouse se retrouvent de temps en temps, et on passe en revue un certain nombre de sujets, soit des sujets que nous portons en commun, soit des sujets de réflexion de fond, et chacun repart ensuite dans son diocèse avec des idées nouvelles, ou des, voilà. Et donc, on a abordé un certain nombre de choses. On commence toujours par se donner des nouvelles de nos diocèses, c'est un moment toujours sympathique, alors on se refile les bons tuyaux, si j'ose dire, s'il y a eu une publication ici.
Vous aviez votre lettre pastorale.
J'ai diffusé, je leur ai partagé ma lettre pastorale, bon voilà. Donc on commence toujours par ça, c'est toujours un très très bon moment où évêque et vicaire général de chaque diocèse parlent, voilà, se complétant l'un l'autre, c'est un bel exercice. Ensuite, Monseigneur de Quérimel m'avait demandé de leur partager la recherche qu'on initie à Lourdes après plusieurs interpellations autour d'un geste à imaginer, d'une prière, d'un geste liturgique à déployer pour aider des personnes, des groupes, des diocèses à poser un geste autour de la question des abus et de la réparation et de la consolation que beaucoup de personnes victimes d'abus sexuels viennent chercher auprès de l'Immaculée Conception à Lourdes. Mmh. C'est un constat que l'on a fait, on ne le savait pas vraiment. Aujourd'hui, on le mesure très fortement, parce que les personnes parlent. Et j'ai été interpellé plusieurs fois, le recteur aussi, mais enfin, voilà, plusieurs fois, des évêques d'autres pays dans le monde m'ont dit « mais il faut que Lourdes nous aide à poser un geste, une prière ». De la même façon qu'il existe, c'est discret, mais les gens concernés le savent, la possibilité pour les femmes qui ont avorté d'aller dans un endroit précis, au bout du chemin de croix, et là, accompagnées par quelqu'un, de poser un acte, une prière, vraiment, et de demander l'aide de Dieu. Bien de la même façon, sur le même schéma, il nous est demandé d'imaginer quelque chose pour les personnes victimes d'abus sexuels, étant entendu que la plupart des abus sexuels dont les personnes sont victimes sont dans le cadre d'incestes familiaux. Hein. C'est pas des abus sexuels dans l'Église, on est dans un autre sujet.
Mais toujours est-il que Lourdes est un lieu de réparation.
Les personnes victimes d'abus, depuis très 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 longtemps, découvre-t-on aujourd'hui, viennent auprès de l'Immaculée Conception chercher consolation et puis une certaine forme de réparation, notamment par le bain aux piscines.
Oui.
Et donc de ritualiser cela en quelque sorte, ou en tout cas d'aider ceux qui le souhaitent à le ritualiser. Voilà, donc j'ai partagé cette information qui a là aussi recueilli un intérêt très fort, parce qu'aujourd'hui on est sensible à ce sujet, qu'on est assez démunis quand même pour trouver... Oui. Des attitudes ajustées, des réponses ajustées aux personnes, etc. Et donc, si Lourdes peut rendre ce service, ben voilà, très bien. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de l'Institut catholique de Toulouse, qui est évidemment un dossier qui nous est très très cher, très important pour les évêques de notre province, mais aussi pour les évêques des provinces de Bordeaux et de Montpellier, puisqu'on est ces trois provinces sur le périmètre de l'Institut catholique de Toulouse. Et actuellement, le dossier important, c'est le recrutement d'un nouveau recteur.
Ah oui.
Et donc, on a échangé là-dessus. On a parlé de la formation de nos futurs prêtres. Et je fais partie, avec Mgr Brouvet, Mgr Batute et le supérieur du séminaire, d'un petit groupe de travail qui a été mis en place en décembre 2024 pour réfléchir à l'avenir de la formation des futurs prêtres et de notre séminaire de Toulouse. Et donc, on a rendu compte de notre travail et voilà, recueilli les réactions des uns des autres pour le poursuivre. Ensuite, on a parlé de questions plus techniques, plus administratives, et notamment les nominations à faire à l'officialité provinciale, qui est le tribunal au service de nos provinces, tribunal canonique au service de
Donc
nos provinces.
Donc il y a un tribunal pour toute la province.
Il y a un tribunal pour toute la province, avec un juge, avec des avocats, etc. Il y avait des nominations à y faire, on a procédé à la chose. On a parlé longuement d'un dossier qui nous tient à cœur, c'est l'accompagnement, le soin, la santé des prêtres. de nos diocèses. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a lu ? On est parti de la lettre que Léon XIV a récemment écrite à l'ensemble des prêtres du monde. Et à partir de là, chacun a pu partager ce qu'il fait, ce qu'il a l'intention de faire, ce qu'il ne fait pas bien dans son diocèse par rapport aux prêtres. Et c'était un bel échange, vraiment, en vérité, et qui manifeste notre cœur d'évêque soucieux de nos collaborateurs, les premiers, que sont les prêtres.
Donc ça veut dire réfléchir au lieu de vie pour ces prêtres-là et à ce qu'ils peuvent faire.
Alors,
s'ils sont encore en bonne santé.
C'est des questions de formation, d'accompagnement, de santé, d'accompagnement spirituel, de nomination, de l'accompagnement du départ en retraite, la question des prêtres fidei donum et de leur accueil, de leur intégration, de la collaboration avec eux, qu'elle soit positive et pas simplement conçue sur un mode « on a besoin de vous pour combler nos manques », mais surtout vous faites comme nous, et pas question d'écouter ce qu'eux peuvent apporter. Il faut changer cette façon de faire et de voir. Enfin bon, voilà, un sujet très large sur les prêtres qui nous a un peu occupés assez longuement. On est revenu, on a fait le bilan de la retraite provinciale qui a été proposée pour la première fois aux prêtres, à tous les prêtres de nos diocèses, de la province de Toulouse.
Donc c'était il y a quelques jours.
C'était il y a deux semaines à Lourdes, accompagné par le père d'Aubanne, le recteur du sanctuaire. C'était absolument magnifique. Et on s'est dit de proposer, organiser une retraite de cet ordre tous les trois ans, à l'échelle de la province, parce que c'était extrêmement bienfaisant pour les prêtres de se retrouver, de passer ce temps fraternel à une échelle un peu plus large que nos diocèses, mais à l'échelle de la province, justement. Et voilà. Donc ça, c'était très, très bien. Après, on a reçu des gens du monde des étudiants et puis du diocèse de Cahors, qui nous ont parlé du phénomène que l'on observe, qui intrigue, qui nous réjouit, qu'il faut comprendre et accompagner, de l'augmentation assez spectaculaire et qui dure du nombre des catéchumènes.
Eh oui. Et donc, mais ça fait trois ans qu'on dit c'est extraordinaire, mais ça fait trois ans que ça dure, du coup.
Et comment nos diocèses se laissent interpeller par cela. Et on a parlé notamment de ce que deviennent les catéchumènes après la célébration des sacrements de l'initiation, dans cette période qu'on appelle le néophyta. Et autant la période catéchuménat qui précède la célébration des sacrements est l'objet de beaucoup d'attention, autant l'après, qui est aussi une période sensible et qui demande de l'accompagnement, eh bien on est beaucoup plus démunis, même si progressivement des outils apparaissent pour y aider. On a parlé du diaconat, de la formation de nos futurs diacres permanents, et on a parlé de cette nouvelle chose, les ministères institués, que le pape François a souhaité, et le bon année. Alors bon, ben, ça tâtonne, il y a certains évêques qui sont enthousiastes et qui se lancent dans l'aventure d'heure chef, d'autres qui sont plus hésitants, mesurant un certain nombre de risques et souhaitant plutôt une préparation en amont avant de se lancer, etc. Le bilan du week-end dernier, du pèlerinage Exode des étudiants, donc à l'initiative de la paroisse étudiante de Toulouse, mais à laquelle se greffent désormais ceux de Bordeaux, et plus de 1000 étudiants étaient à Lourdes ce week-end, et c'était formidable, beaucoup d'animation, de chant, de joie. Donc on a fait une relecture tout à fait sereine de ce qui a bien marché, de points d'attention, de vigilance qu'il faudra regarder de plus près pour les nouvelles éditions. Mais voilà, on a fait le point de ça. Et enfin, on a parlé du futur rassemblement dans un mois à Quéraud qui concerne les 4e, 3e de la province aussi et qui aura lieu à Lourdes et qui se prépare. Et voilà, on a parlé aussi de cela. Voilà notre menu des deux jours passés à Albi.
Tout cela en deux jours. En tous les cas, on voit que chaque binôme évêque vicaire général arrive avec ses réalités diocésaines, mais qu'il y a quand même des perspectives et des préoccupations qui sont vraiment portées à l'échelle provinciale.
Voilà, on travaille ensemble. Alors ça, c'est un souhait à la fois de la conférence des évêques, mais aussi du Saint-Siège, que les évêques travaillent ensemble. C'est un évêque ne vaut que s'il est collégialement uni à ses frères et ensemble au premier d'entre eux, qui est le successeur de Pierre à Rome. Et ça s'incarne dans le travail en province, en conférence épiscopale nationale, etc., etc. Et donc, c'est une des missions de l'archevêque que de faire vivre précisément cette collaboration provinciale.
Allez, on passe maintenant au deuxième sujet. Évidemment, les élections municipales, on ne peut pas passer à côté puisque ce dimanche 15 mars, c'est le premier tour des élections municipales en France. Alors, on va revenir sur ce que vous avez écrit dans le dernier bulletin diocésain puisque c'est un bulletin qui parle largement de ce sujet-là. Alors, entre l'édito et puis quelques réponses aux questions qui vous étaient posées, vous écrivez que, eh bien, il ne faut pas mélanger les domaines, la vie publique et la foi. Mais en même temps, vous précisez aussi qu'il ne faut pas séparer la vie de foi et la vie publique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, au fond? Est-ce que, oui ou non, il faut s'engager avec l'étiquette « je suis chrétien, je suis catholique, je m'engage » Quel est vraiment votre conseil et votre posture là-dessus?
Comme je l'ai écrit, il n'y a pas de parti chrétien ou de liste chrétienne et que l'évêque ne soutient absolument aucun candidat, même s'il est catholique pratiquant. Ce n'est pas de cet ordre-là. Et il est très clair que l'évêque est le pasteur de tous et sa mission n'est pas d'ordre immédiatement temporel, on va dire. Par contre, il est d'encourager tous les fidèles catholiques à prendre leur part de responsabilité dans la vie de la cité et donc, notamment à s'engager en politique s'ils ont de l'appétence pour la chose et que leurs charismes peuvent être utiles aux autres, à leur jugement et à celui de quelques autres éventuellement. Et donc il faut se sentir concerné par la vie de la cité, par l'organisation de notre vie ensemble. Et c'est une caractéristique de l'homme que d'être préoccupé par un autre intérêt que le sien seulement, mais un intérêt partagé par d'autres et que cela s'organise, suppose des concessions, suppose des sacrifices, etc. Et que donc un chrétien a toute sa place, évidemment, dans ce type de préoccupation, d'engagement, et qu'il doit le faire. Mais comme je le dis aussi, dans les campagnes comme celles que nous connaissons et connaîtrons, il faut le faire à la loyale, c'est-à-dire que le chrétien se démarque précisément par la qualité de sa présence dans ce genre d'intervention, de proposition, en le faisant à la loyale. Voilà, j'ai utilisé cette expression, c'est-à-dire la fin ne justifie jamais les moyens, et même s'il est convaincu qu'il faut faire entendre une opinion marquée par sa foi, et pour ce faire il faut être élu, eh bien c'est pas en calomniant, en attaquant, en utilisant des moyens qui ne sont pas légitimes au regard de la foi, qu'on doit atteindre cette fin-là, même si elle est bonne. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et donc, voilà, je rappelle cela simplement, mais ça va de soi, mais c'est m'a semblé nécessaire de le rappeler quand même.
Il ne s'agit pas de s'engager avec une étiquette sur le front « je suis chrétien, je suis catholique, je suis paroissien à tel ou tel endroit », mais plutôt dans la manière d'être et de s'impliquer dans la vie locale.
Bien sûr, ben, comme d'habitude, comme pour tout le reste, comme c'est la manière ordinaire de manifester l'Évangile, c'est-à-dire en le vivant d'abord, en le mettant en pratique, et ensuite en rendant compte de ce pourquoi on est comme on est à ceux qui nous le demandent. Voilà, ben c'est la manière ordinaire de faire et qui s'applique là, dans ce domaine également. Et je rappelle dans l'édito notamment du bulletin diocésain que tout est souvent, enfin comment dire, il n'y a pas de chimiquement pur satisfaisant à 100% pour, oui, pour un chrétien selon ses convictions, que forcément l'engagement suppose, et le vote lui-même qui est un engagement, suppose de concéder non pas des compromis et encore moins des compromissions, mais de savoir que de toute façon il y aura un choix à faire entre ce qui nous semble le meilleur, voire ce qui nous semble le moins mauvais. Bon, mais qu'il faut s'engager de toute façon, et que c'est notre conscience éclairée par l'Évangile et par l'enseignement de l'Église qui doit être déterminante au final.
Voilà, et ça c'est vrai pour ceux qui s'engagent et pour ceux qui sont appelés à voter.
Et pour ceux qui votent, qui est un engagement aussi. Voilà.
Alors vous-même, vous avez vécu dans des villages, dans des villes, dans des très grandes villes, Monseigneur. Alors j'avais envie de vous poser aussi cette question. Si vous étiez élu, vous auriez quoi comme priorité? Vous auriez envie de faire quoi comme élu local?
Mon Dieu. J'ai envie de dire, alors je ne sais rien, hein, mais parce que le monde politique est un monde beaucoup plus complexe encore que celui de l'Église.
Ah, mais vous croyez?
J'aimerais faire quelque chose, je pense, qui ressemble à ce que je fais dans la responsabilité qui est la mienne, c'est-à-dire réunir les gens, poser à tous les éléments de telle ou telle problématique, permettre que tout le monde s'exprime à ce sujet, dise son avis. Je suis habité par ce grand principe, oui, que personne n'a raison à lui tout seul, et que donc, et oui, ce qu'on appelle la synodalité, mais tout le monde a des lumières à apporter. Alors évidemment, quand on passe aux choses concrètes, ça va s'exprimer par des exigences contradictoires, et il faut un arbitre qui opère un choix, mais un choix qui ne doit pas être clivant, et qui, ma prudence peut-être un peu aussi, à la fois je sais faire des choix et prendre des décisions, et à la fois j'essaie d'être très modeste dans cet exercice, en ne présentant pas les choses comme étant assuré que c'est la panacée absolue. Mmh. On va essayer, il me semble que c'est ce qui convient le mieux aujourd'hui, et si ça va pas, ben on aura l'humilité de le reconnaître et de réorienter ou réajuster les choses. Je pense que, étant fait comme je suis fait, c'est à peu près cela que je ferais aussi si j'étais élu.
C'est-à-dire qu'il faut faire des consensus, mais il y a quand même des décisions à prendre, et à un moment, il faut trancher, quoi.
Oui, et puis avoir de la modestie dans les choses, c'est-à-dire ne pas présenter les affaires comme étant assuré à 100% que c'est ça et rien d'autre qui est bon. Il faut essayer, on navigue avec une vision que l'on espère aussi affûter et affiner que possible grâce à la foi, grâce à l'esprit, la prière, etc. Mais après, il faut engager une décision et être très modeste quand on le fait, et être prêt à réviser les choses et à redémonter la tente et à la planter un peu plus loin ou autrement, selon l'image que j'aime beaucoup convoquer à propos d'Abraham et de cette itinérance dans laquelle nous sommes engagés. On n'est jamais figé sur un modèle ou quoi que ce soit. On est toujours en construction, et il faut être très très souple intérieurement avec ça, tout en étant très ferme dans le fait que de toute façon il faut s'engager, il faut prendre des risques, il faut y aller, et après on ajuste.
Alors il y a des sujets, hein, comme par exemple le patrimoine religieux ou l'école catholique, qui sont des terrains un petit peu communs, si on peut dire ça comme ça, entre les mairies et l'Église. Est-ce que là, vous pourriez nous donner un peu le cadre, les garde-fous à poser pour que ces terrains-là soient des terrains, si ce n'est de collaboration, au moins d'entente?
Oui. Eh bien, c'est déjà d'essayer de contribuer à ce que la culture qui l'emporte dans ce genre de sujets et de relations et de points de contact, chacun dans son domaine, hein, en régime de séparation de l'Église et de l'État, mais tout de même, il y a beaucoup de points de contact. Et c'est donc d'inscrire profondément la culture que c'est pas gagnant-perdant. Or, notre modèle démocratique, malheureusement, induit cette culture-là. Des élections, il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Le modèle de démocratie dans l'Église n'est pas du tout celui-là. Il y a deux avis qui s'affrontent, on discute, et ça élabore un troisième avis qui va recueillir l'approbation des deux précédents, et qui n'existait pas au départ, et qui naît précisément de la discussion entre les deux premiers.
Et, oui.
Et ça, c'est pas notre modèle de démocratie politique habituelle, mais c'est celui de l'Église. Et donc, d'essayer de travailler à ce que le maire et le directeur de l'école catholique se considèrent dans un schéma gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'intérêt des uns est aussi l'intérêt des autres. Et de ne pas partir d'abord du constat que les enfants qui vont à l'école catholique du village, eh bien, c'est autant d'enfants qui ne vont pas à l'école publique du même village. C'est pas de d'abord compter les choses comme ça, mais c'est de voir comment, ensemble, on peut proposer aux familles de ce lieu une éducation qui offre des différences, qui offre aussi une synergie, je vais employer un mot comme ça, commune, qui fait de futurs citoyens, qui feront de futurs habitants de cette communauté, et qu'au final, tout le monde sera gagnant-gagnant. Et il y a des lieux où ça se passe réellement comme cela, et c'est extrêmement heureux, et j'aimerais que ça fasse boule de neige, et que d'autres prennent exemple et constatent que c'est ça qui marche et qui fait du bien à tout le monde.
En fait, c'est le souci du bien commun, et l'Église n'a peut-être pas le monopole de souci du bien commun.
Mais on n'est pas des ennemis a priori.
Oui, c'est ça.
Et malheureusement, les débats de ces derniers temps, ou absence de débats de ces derniers temps, laisse croire que l'école publique est forcément l'ennemi de l'école catholique et que l'école catholique est forcément l'ennemi de l'école publique. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et donc, le jour où on comprend cela et on aborde les choses avec sérénité, intelligence et dialogue respectueux des uns et des autres, eh bien, tout le monde est gagnant, à commencer par les familles et leurs enfants.
Merci beaucoup, Monseigneur, pour vos réponses sur ce sujet donc des élections municipales avec ce premier tour ce dimanche 15 mars. Voilà, et puis on en reparlera évidemment puisque c'était quand même un sujet important. On ne peut pas terminer cet entretien, Monseigneur, sans un mot sur les réalités. L'autre réalité, eh bien, c'est cette guerre au Moyen-Orient, en Terre Sainte. On l'a dit la semaine dernière, ça peut paraître loin, mais c'est chez nous, c'est avec nous. Peut-être un mot quand même. Alors, c'est toujours difficile de trouver quoi dire, mais peut-être tout simplement une prière, un désir de paix.
Eh bien, c'est ce que je vais faire, Anne-Rose. Monseigneur Camiade a rédigé, l'évêque de Cahors, une prière à Notre-Dame de Rocamadour. Mmh. Et si vous le voulez bien, je vais simplement terminer cet entretien en disant cette prière à Notre-Dame de Rocamadour. Notre-Dame de Rocamadour, Mère du Christ et Reine de la Paix, alors que les théâtres de guerre se multiplient, nous vous confions les peuples de la terre, aveuglés par le mépris mutuel. Les responsables politiques enfermés dans des intérêts partisans ou dans la peur de l'autre, et tous les cœurs secoués de violence. Vous qui méditez tous les événements dans votre cœur maternel, apprenez-nous à aimer l'intériorité et à chercher la réconciliation, à prier sans relâche dans une invincible espérance. Seigneur Jésus ressuscité, ta paix est désarmée, car ton combat contre les forces du mal, du désert à Jérusalem et du jardin de l'agonie à la croix, fut toujours désarmé. Et ta victoire est triomphe de l'amour sur la haine. Donne ta paix au monde, une paix désarmée et désarmante. Nous te prions pour les victimes des conflits, adultes ou enfants, et pour tous ceux que la peur rend complices d'une escalade de violence. Donne-leur de trouver secours, sérénité et confiance. Nous te prions pour ceux qui ont perdu l'espérance et se sentent impuissants pour restaurer la paix. Donne-leur de témoigner de l'amour des ennemis et d'une bonté désarmante. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, apprenez-nous à vivre en frère. Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. Amen.
Merci, Monseigneur Mika. On vous retrouve la semaine prochaine.